Troisième partie, vers la liberté. Chapitre 1er. Lorsque le juge eut signé le non-lieu, je balbutiai des paroles de reconnaissance. Il me donna quelques conseils. Il faisait semblant de croire que je n'avais pas tué d'Allemand. Rien de plus attirant que ces hommes à qui il est égal d'être trompé. J'avais été persuadé que ce juge m'en avait voulu de lui mentir et qu'il cherchait à me confondre comme s'il était personnellement en cause. Maintenant, je m'apercevais que j'avais été injuste. Cet homme était vraiment un homme supérieur. Il avait la coquetterie de ceux qui savent qu'ils agissent bien et qui font semblant de l'ignorer. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour cacher sa bonté, comme si c'était en tenant uniquement compte du dossier qu'il avait conclu à un non-lieu. J'annonçai la nouvelle aux gardes municipaux. Rien n'est plus angoissant que le temps qui s'écoule avant que se réalise ce qui nous est promis. 2 heures plus tard, je retombais dans mon abattement. J'avais beau me dire que j'étais sauvé, d'affreux doutes m'envahissaient. Une idée baroque me vint à l'esprit. Si je profitais du relâchement de la surveillance pour tenter de m'enfuir? Mais n'était-ce pas de la folie? Que penser d'un prisonnier qui s'évaderait au moment où il va être libéré? Cette idée ne me quittait plus. Si le juge revenait sur sa décision, qu'on me reconduisît à la santé, comme je m'en voudrais de n'avoir pas profité de ce répit. J'attendais dans un couloir lorsqu'on m'introduisit de nouveau dans le cabinet du juge. Il ne s'agissait que d'un détail. Le juge me sourit. J'eus alors conscience que cet homme, qui m'avait paru posséder une puissance extraordinaire tant qu'il avait été contre moi, maintenant qu'il était avec moi, n'en avait plus aucune. Quand on me relâcha, un imbécile de fonctionnaire me dit qu'il ne fallait pas que je m'imagine qu'on l'avait fait par sympathie pour moi. Je ne devais pas non plus me figurer que j'étais quitte, mais au contraire, faire très attention et abandonner mon air arrogant, sans quoi on ne me relâcherait pas du tout. Je pensais que celui qui me menaçait ainsi n'avait aucun droit de le faire. Si l'on me rendait ma liberté, c'était que l'ordre venait de plus haut que lui, et il n'était pas en son pouvoir de le modifier. Mais, par prudence, je fis semblant de croire qu'il le pouvait. Lorsqu'on a été en prison et qu'on a été libéré, il reste cependant par la suite de petits rapports qui ne sont évidemment que des régularisations ou des mises au point d'oubli, mais qui s'accompagnent, tout comme les choses sérieuses, du même appareil judiciaire. C'est ainsi que je reçus une convocation à me rendre au greffe. Et comme tout ce qui touche à la justice, que ce soit avant ou après, est rédigé de la même façon énigmatique, je me mis à trembler. Puis je fus pris d'une autre crainte, celle d'éveiller la méfiance par le peu d'empressement que j'apportais à répondre à des convocations anodines. Je regrettais de n'avoir pas tout réglé au début, au moment où cela eût été naturel et facile, de ne m'être pas rangé pour éviter justement ces derniers contacts. C'est toujours la même chose. Quand tout va bien, on ne songe pas à l'avenir. Il faut dire, à ma décharge, que j'ai toujours eu peur d'être confondu avec ces gens qui conservent le souci de leur intérêt au moment où on leur annonce une bonne nouvelle et qui, au lieu de se réjouir, font les difficiles. Je devrais lutter contre cette sorte de pudeur, car il n'y a vraiment rien de plus bête que de s'adonner à des raffinements de délicatesse au moment où notre vie et notre liberté sont en jeu. J'allais remercier Mondanel. Je croyais qu'après ce qu'il avait fait pour moi, il m'apporterait sans même s'en apercevoir son aide pour ce qui restait à régler. Mais j'eus la surprise de me trouver devant un mur. On eût dit qu'après m'avoir fait cadeau d'un million, il se refusait absolument de me donner le moindre conseil sur la façon de mettre cet argent en sûreté. Avec froideur, il me fit comprendre que je n'avais pas à le remercier, que ce qu'il avait fait était tout naturel, que d'ailleurs tout le monde aurait agi comme lui. Je compris tout à coup qu'il tenait surtout à ce que son intervention ne fût pas grossie, à ne pas être seul dans l'histoire. Il ajouta que le directeur de la prison avait été très gentil, et qu'au ministère de la Justice on l'avait été également. Je n'osais lui demander le nom du haut personnage de ce ministère qui était intervenu pour moi. Un personnage, paraît-il, plus jeune que ses subordonnés. Je ne voulais pas paraître intrigué derrière le paravent respectable de la reconnaissance. Alors que Mondanel avait trouvé naturel que j'allasse le voir avant mon arrestation, à présent qu'il m'avait rendu un immense service, je sentais que je le gênais, pour m'empêcher de revenir, ce tout temps que pour rien au monde je n'eusse voulu qu'il me soupçonnât d'intriguer, il faisait semblant de le croire. Je me dis que ce serait vraiment trop bête, à cause d'un scrupule de ce genre, d'être grossier avec ce haut personnage. M'enhardissant, je demandai son nom. « Monsieur Messin, » me dit Mondanel, sans ajouter la moindre explication. Comme je n'obtenais pas le papier au nom de Tinet attestant que j'avais été libéré, je continuais à courir à gauche et à droite. Cela m'était profondément désagréable, mais je me sentais toujours en danger, je me disais qu'il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud. Mais ces mêmes protecteurs qui m'avaient sauvé de la mort étaient incapables, à présent, de me rendre le plus petit service. Je ne savais pas encore que, dans l'aide que nous apportent les indifférents, comme une sorte de malentendu, de regret même, qui par la faute rend impossible toute bonne relation avec ceux-ci. Que m'arriverait-il si j'étais de nouveau mis en prison? Que ferait Bressy, Messin, Mondanel? Un service, une fois rendu, ceux qui nous ont obligés considèrent leur tâche accomplie. Le fait d'avoir à intervenir de nouveau leur donne un sentiment de mauvaise humeur. Et puis, tout remettre en mouvement ne me paraissait pas chose facile. En un mot, l'avenir était bien sombre. On m'avait tiré d'un mauvais pas, c'était entendu, mais sans le vouloir expressément. Ma mise en liberté était plutôt le résultat d'une conjoncture heureuse. La preuve en était que Messin n'avait pas caché sa surprise en me voyant libre. Mondanel et lui s'étaient surtout appliqués à faire triompher un point de droit. Ma belle assurance s'évanouissait. J'étais paralysé par la nécessité de me conduire, de manière que ces messieurs n'eussent pas à regretter leur intervention. Au bout d'un mois d'aller et venue inutile, une crainte affreuse commença à m'envahir. J'eus beau me dire qu'elle était insensée, elle se faisait de plus en plus forte. J'avais l'impression que ceux-mêmes qui m'avaient sauvé allaient me faire emprisonner de nouveau, qu'ils me trouvaient indigne de ce qu'ils avaient fait pour moi. Je me sentis environné d'une hostilité dont je ne m'expliquais pas la cause. C'était tellement invraisemblable que je me croyais à certains moments la victime d'une sorte de manie de la persécution. Mais en y réfléchissant, je me disais qu'après tout ce n'était pas impossible. Il pouvait très bien se faire que ces éléments de la police, qui font de toute affaire une question d'amour-propre personnel, me sachant lâché par mes amis, s'arrangent pour me faire arrêter sans qu'aucun ordre formel ne fût donné. Il m'a paru que j'avais été au cours de ce dernier mois d'une imprudence folle. Quand je vis mon père, je n'osais lui faire part de mes pensées. Il était triomphant. Il m'annonça que M. Messin voulait me voir. Il m'annonça également qu'il avait appris que Jean de Boisboissel, pour lequel j'avais été si injuste, était intervenu en ma faveur, ce qui m'avait beaucoup surpris. Je ne devais pas perdre une minute. Il fallait que je le remercie aussi immédiatement. Mon père l'avait déjà fait, mais ce n'était pas suffisant. Depuis ma libération, mon père, qui auparavant affectait de me laisser entièrement libre de mes actes, s'était brusquement imaginé qu'il ne fallait pas me consulter quand il s'agissait de mon intérêt. Il était tellement frappé par l'importance qu'il croyait que j'avais prise qu'il s'était persuadé que seul, je ne pouvais plus faire face à toutes les obligations en découlant. Nous nous rendîmes chez Messin. Je compris alors ce qui s'était passé. Mon père avait sollicité pour moi, sans oser m'en parler, un poste au ministère de la Justice et Messin, aidé de Bressy, avait usé de son influence pour me le faire obtenir. Mon père se répandait en amabilité pour compenser ma froideur. Il me faisait de la peine. Il en était arrivé à perdre toute dignité. Il allait jusqu'à me dire, comme à un enfant, devant M. Messin lui-même, que je ne le remerciais pas assez. Le directeur avait une attitude merveilleuse. Il faisait semblant de ne pas vouloir qu'on le remerciât. Mon père exagérait. Il n'avait rien fait. C'était au ministre lui-même, M. Xavier de Laguioni, que nous devions exprimer notre reconnaissance. Il me faisait de petits signes qui laissaient entendre que ma froideur lui paraissait beaucoup plus naturelle que le débordement de mon père. Il avait certainement songé à se débarrasser de nous très vite, comme on le fait toujours pour ne pas diminuer un service par trop de familiarité. Mais la reconnaissance débordante de mon père ne s'atténuant pas, il ne résistait pas au plaisir de nous garder dans son bureau. Il recommença plusieurs fois à m'expliquer mes futures attributions, sans paraître s'apercevoir de la joie de mon père, comme si ce n'était pas lui qui était intervenu pour nous, comme s'il était heureux pour le ministre, notre véritable bienfaiteur, de la joie que nous éprouvions. Après m'avoir tracé dans les grandes lignes ce que j'aurais à faire, Messin nous dit d'un air indifférent, comme si cette question était sans importance, et n'appartenait d'ailleurs plus à sa compétence, que je devais me présenter au service du personnel où ma visite était annoncée. Je fus frappé qu'il n'alla pas jusqu'au bout de sa protection, qu'il me laissa une grande part à achever seul, comme s'il était naturel que je misse un peu du mien dans une affaire si heureusement engagée par d'autres. J'éprouvais un malaise. Nous étions sur un pied d'égalité, mais dans un instant nous ne le serions plus, car pendant que je me présenterais au service du personnel, Messin, lui, demeurerait dans ce même bureau directorial. Oh, je sais, me sachant protégé, on allait faciliter les formalités. Mais je craignais tellement la jalousie, l'envie que provoquent justement ces protections. J'imaginais tellement bien la joie que les petits fonctionnaires éprouveraient, s'ils pouvaient aller dire en haut lieu « Mais savez-vous bien qui vous nous avez envoyé ?» On allait peut-être faire sentir à Messin qu'il était impossible de m'accepter, lui demander une confirmation. Je me représentais la fameuse scène du chef ne pouvant pas faire ce qu'il veut, ne pouvant pas exiger de ses subordonnés une mesure qui minerait son autorité, du chef outrepassant ses droits. « Pourquoi n'est-ce pas possible ?» demanderait Messin avec étonnement. « On le lui expliquerait. Mon expérience m'avait appris que dans les circonstances de ce genre, les subalternes finissent toujours par triompher. Leurs chefs, qui ne peuvent entrer dans le détail de ce qu'ils ordonnent, s'en rapportent à eux. Finalement, la faute retomberait sur mon père et moi. « Pourquoi me suis-je lancé dans cette histoire ?» penserait Messin. « Je ne les connais pas, après tout, etc. » Il essaierait cependant d'arranger les choses, sans trop s'engager. Il parlerait de moi, il ferait semblant de s'intéresser toujours à mon cas, bien qu'au fond de lui-même il souhaiterait ne plus entendre parler de moi. Car ce n'est pas la même chose que de rendre un service qui est directement en notre pouvoir et de demander à d'autres de le rendre. On lui poserait sans doute plus de questions qu'il ne nous en avait posées lui-même, et ainsi, pour une situation à laquelle je ne tenais pas, on allait peut-être finir par découvrir que mon non-lieu n'était pas régulier.